Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 16 Mordad, 1401 du calendrier iranien, 7 août 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. L'Iran critique le silence regrettable du monde quant à l'attaque israélienne contre Gaza. L'Iran célèbre Tasoua pour commémorer les sacrifices et les souvenirs de l'imam Hossein, béni soit-il, et de ses compagnons. Frappe israélienne sur Gaza. Le bilan monte à 34 morts, dont 6 enfants. Et les États-Unis préparent un nouveau paquet d'armes d'$1 milliard pour l'Ukraine. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Des milliers d'Iraniens marquent Tasoua dans le cadre de cérémonies de deuil célébrant l'anniversaire du martyr de l'imam Hossein, béni soit-il, le vénéré petit-fils du noble prophète de l'islam. Tasoua est le 9e jour du mois de Muharram, un jour avant Ashura, qui marque l'anniversaire de la mort en martyr du vénéré imam Hossein, le 3e imam des chiites. Tasoua est le jour où l'imam Hossein et ses compagnons ont été assiégés par l'ennemi lors de la bataille de Karbala. Chaque année, des personnes en deuil, vêtues de noir, se rendent dans les mosquées ou défilent dans les rues pour des rituels et récitent des élégies en l'honneur de l'imam Hossein, béni soit-il. Le vénéré imam Hossein et 72 de ses compagnons ont été tués en martyrs après avoir combattu des milliers de soldats du deuxième calife omeyyade, Yazid, le tyran de l'époque, dans le désert de Karbala, dans l'actuel Irak, en 680 après Jésus-Christ. De par son soulèvement, l'imam Hossein, béni soit-il, a souligné qu'il n'acceptera jamais l'humiliation de l'allégeance à Yazid et ne fera jamais de compromis secret et ouvert avec la corruption et la tyrannie. La situation se tend encore dans la bande de Gaza. Israël continue de bombarder la bande de Gaza avec des frappes meurtrières aériennes. Les tout récents raids aériens qui ont eu lieu il y a peu ont fait au moins 2 nouveaux morts. Samedi, l'armée israélienne a annoncé se préparer à une semaine de raids. Le triste bilan humanitaire des frappes israéliennes depuis vendredi est monté à 34 morts, dont plusieurs enfants. Les dernières attaques ont visé le camp de Jabalia et la ville de Khan Younes. Plusieurs personnes ont également été blessées, deux autres hauts dirigeants du djihad islamique de la Palestine, figurent également parmi les victimes. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, affirme que l'assassinat de dirigeants palestiniens n'arrêtera pas la résistance à l'occupation d'apartheid israélienne. Dans un autre acte d'agression, plus de 900 colons israéliens, soutenus par les forces militaires, ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Il y a quelques heures à peine, ils ont envahi le lieu saint en scandant des slogans marquant ce qu'ils prétendaient être l'anniversaire de la destruction du mont du Temple. Les forces israéliennes ont adopté des mesures de sécurité strictes à l'intérieur et autour de la mosquée, empêchant ses gardes d'affronter les colons. L'offense intervient malgré un avertissement du Hamas contre tout empiètement sur les locaux de la mosquée. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a réagi en condamnant l'autorisation par Tel Aviv aux sionistes radicaux d'attaquer la mosquée Al-Aqsa. Haroun Nasreddin, chef du bureau Al-Quds du mouvement, a déclaré que les appels des groupes extrémistes sionistes pour effectuer des incursions à grande échelle dans la mosquée Al-Aqsa aujourd'hui et demain sont des tentatives désespérées de judaïser la mosquée. Tout en appelant à contrecarrer les projets de division de la mosquée, cette autorité du Hamas a mis en garde contre l'exploitation par les groupes sionistes de diverses occasions pour mettre en œuvre leur plan dans le but d'imposer de nouveaux faits dans la ville sainte. Le Hamas exhorte les Palestiniens à se donner la main pour contrer les assauts et défendre leurs terres. Les États-Unis préparent un nouveau lot d'armes pour Kiev, d'une valeur cette fois $1 milliard, pour l'aider à combattre la Russie. Le prochain paquet d'aide à la sécurité de l'administration Biden pour l'Ukraine devrait s'élever à $1 milliard, l'un des plus importants à ce jour, et inclure des munitions pour armes à longue portée et des véhicules blindés de transport médical, ont déclaré les sources informées de la question citée par les médias américains. Le paquet d'armes n'a pas encore été approuvé par le président américain Joe Biden. S'il est signé, il fournira notamment à l'Ukraine, HIMARS, des systèmes de missiles sol-air avancés et des véhicules blindés, selon des sources. Lundi dernier, le Pentagone a annoncé un programme d'aide militaire séparé pour l'Ukraine d'une valeur de quelque $550 millions. La tranche comprenait des systèmes de roquettes avancés et des canons d'artillerie. Jusqu'à présent, les États-Unis ont donné environ 8,8 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis février, lorsque le conflit a déclenché. Les autorités russes ont à plusieurs reprises mis en garde Washington et l'OTAN contre l'offre d'une assistance militaire à Kiev. Le Kremlin affirme que de tels envois ne font qu'alimenter le feu de la guerre et la prolonger. Et enfin, une enquête est en cours dans l'État américain du Nouveau-Mexique sur ce que le gouverneur local appelle les meurtres ciblés de 4 hommes musulmans. Le corps d'une victime musulmane a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi. Les enquêteurs pensent que ce meurtre pourrait être lié à 3 meurtres récents d'hommes musulmans, également originaires d'Asie du Sud. Le dernier des meurtres a eu lieu vendredi. Les 3 autres se sont produits au cours des 2 dernières semaines et en novembre. La police locale et les agences fédérales tentent maintenant d'établir si les meurtres dans la ville d'Albuquerque sont liés. Les victimes précédentes ont été prises en embuscade et abattues sans sommation. La police a déclaré plus tôt que les hommes musulmans étaient ciblés pour leur religion et leur race, et qu'il y a de fortes chances que leur mort soit liée. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a vivement condamné les dernières frappes aériennes meurtrières du régime israélien contre Gaza, affirmant que l'inaction et le silence de la communauté internationale quant à ces crimes de l'entité israélienne contre les Palestiniens sont regrettables. Nasser Kanani a fait ses remarques dans une note sur son compte Twitter dimanche, alors que les avions israéliens continuent de bombarder la bande de Gaza pour la troisième journée consécutive, faisant 34 morts et plus de 200 blessés. Attachant à son tweet plusieurs photos des victimes de la dernière agression israélienne contre les Palestiniens, Kanani a écrit « Ce sont des exemples des crimes du régime d'apartheid d'Israël dans ses récentes attaques contre Gaza. Le silence de la communauté internationale et des défenseurs des droits de l'homme contre les crimes des sionistes à Gaza est déplorable et regrettable. Il est intéressant de noter que le département d'État américain a réaffirmé son plein soutien au droit d'Israël à se défendre, a-t-il ajouté. Il a écrit qu'il est regrettable que les faux militants des droits de l'homme soutiennent les crimes quotidiens du régime d'occupation contre le peuple d'un pays occupé sous le titre de légitime défense. Les tensions ont monté en flèche dans la bande de Gaza et les territoires occupés de la Cisjordanie depuis vendredi, lorsque le régime israélien a perpétré un massacre contre la bande de Gaza tuant des dizaines de personnes. Au moins 6 enfants ont été tués samedi dans une explosion dans un quartier populaire près du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, portant à 8 le nombre d'enfants tués depuis vendredi. Les autorités palestiniennes ont déclaré que 650 logements ont été endommagés au cours des premières 24 heures de l'assaut israélien sur Gaza, qui a ciblé plusieurs immeubles. Israël a arrêté le transfert prévu de carburant vers Gaza, paralysant la seule centrale d'électricité de la bande de Gaza et réduisant l'électricité à environ 8 heures par jour. Les responsables de la santé avertissent que les hôpitaux seraient gravement touchés en quelques jours. En réponse aux violentes frappes aériennes d'Israël, les forces de la résistance palestinienne ont tiré plus de 400 roquettes sur des cibles israéliennes, déclenchant des sirènes de raid aérien et faisant des colons courir vers des abris. Le djihad islamique de la Palestine a qualifié cette opération de représailles au bain de sang israélien. Le secrétaire général du mouvement de résistance palestinien, Ziad al-Nakhala, a déclaré que l'ennemi israélien devrait s'attendre à une confrontation sans relâche à la suite de l'agression israélienne.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, l'armée syrienne a ciblé avec un missile les positions turques dans le nord-ouest de la Syrie. Et bien sûr, cette région qui était soumise depuis 2 ans à un cessez-le-feu, et la situation reste et demeure très névralgique dans cette situation. Alors d'une part, la Turquie essaie de renforcer sa position dans cette région et de l'autre, l'armée turque menace directement les Kurdes de la Syrie de lancer une opération militaire contre ces derniers, alors que la Russie et l'Iran sont extrêmement opposés à ces opérations, bien sûr. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les combats font rage contre le sultan. 2 semaines après le sommet de Téhéran, où Erdogan a été sommé d'éviter tout agissement dans le nord de la Syrie, l'armée syrienne a intensifié son action dans le nord. Le 4 août, l'armée syrienne a ciblé avec un missile guidé anti-char une excavatrice de l'armée turque qui construisait des fortifications près de la ville d'Afès, située à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, selon le site web Soudfran. Selon certaines sources d'information, la frappe de missile a détruit l'excavatrice. La position à Afès n'est que l'une des dizaines de sites militaires turcs installés à Idlib. Malgré le déploiement de troupes turques, la région est dirigée par les terroristes Hayat Tahrir al-Sham, affiliés à Al-Qaïda. Idlib est soumis à un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie il y a plus de 2 ans. Cependant, la situation dans la région reste tendue. La veille encore, 4 terroristes membres du HTC, les terroristes Hayat Tahrir al-Sham, avaient été tués et 8 autres blessés lorsque leur véhicule avait été pris pour cible par des militaires syriens. L'attaque était une riposte à une récente violation du cessez-le-feu. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les récentes attaques de missiles contre des positions de l'armée turque à Azaz. Selon le site web militaire russe Aviapro, les positions de l'armée turque, situées non loin de la ville d'Azaz, dans le nord-ouest d'Alep, ont essuyé des tirs de missiles. Les attaques de missiles ont infligé des dommages aux positions de l'armée turque et des terroristes affiliés dans la ville syrienne d'Azaz. Les experts estiment que soit des groupes de la résistance, soit des éléments kurdes pourraient être derrière des attaques contre les troupes turques. Auparavant, la Turquie avait menacé de lancer une opération militaire contre les Kurdes en Syrie. Cette décision d'Ankara s'est heurtée à l'opposition ferme de la Russie et de l'Iran. Les tensions dans le nord de la Syrie ont commencé en mai lorsque l'armée turque et ses mercenaires ont commencé à se préparer à lancer une nouvelle opération contre les FTS. Tal Rifat et la ville voisine de Manbij ont tous deux été désignés par Erdogan comme les principales cibles de toute nouvelle opération militaire turque en Syrie. L'armée syrienne et la police militaire russe opèrent dans les 2 villes. La Turquie est apparemment toujours déterminée à monter en puissance contre les FTS, ce qui ne fera qu'aggraver la situation humanitaire dans le nord de la Syrie.
Voilà, on a vu en détail l'offensive syrienne contre les positions turques dans le nord-ouest de la Syrie. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos 2 chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour et merci.
Bonjour à vous, à votre équipe et surtout à Mme Midani, que j'ai toujours grand plaisir à retrouver dans le débat.
Justement, Aïssar Midani, franco-syrienne, experte des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Mme Midani, bonjour. Voilà, alors ma première question va s'adresser à M. Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, et bien sûr, l'armée syrienne voit d'un très mauvais œil le renforcement des positions turques dans le nord-ouest de son pays. C'est pour ça que Assad a décidé de passer à l'offensive. Que pensez-vous?
On assiste à nouveau à une manifestation de l'opportunisme d'Erdogan et à ce qu'on appelle en France la duplicité levantine. C'est comme ça qu'on appelait la politique turque du sultan turc au 19e siècle et au 20e siècle. Et c'est la même chose dans le cas d'Erdogan. Erdogan profite qu'actuellement il a de bons rapports avec la Russie dans le cadre du dossier ukrainien. Mais en Ukraine, il pratique une politique de grand écart. Il fournit des drones à l'Ukraine et en même temps, il aide à contourner les sanctions économiques américaines entre les Européens et la Russie. Il manifeste la même duplicité dans le cadre de son dossier. En Syrie et en Irak, où évidemment, il manifeste une volonté de redévelopper les hostilités, mais également en Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan, à l'aide des drones turcs, s'est à nouveau attaqué aux positions de la République arménienne du Haut-Karabakh. C'est une politique, évidemment, qui ne conduira pas loin et qui, en particulier, indispose Damas et Téhéran.
Oui. Merci, M. Michel, pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Aysar Midani, qui est avec nous depuis Damas. Madame Midani, quelle est votre introduction à cet égard? Malheureusement, nous avons un problème technique depuis Damas. Je vais m'adresser à nouveau à M. Luc Michel. Alors, vous dites, M. Michel, que cette politique ne mènera à rien. Pourquoi vous dites ça?
Ben écoutez, parce que la politique du grand écart, elle ne peut conduire qu'à mécontenter tout le monde. Erdogan va mécontenter, évidemment, les Américains, puisqu'il se prend directement aux positions de leurs alliés kurdes. Et la présence américaine en Syrie, elle dépend à la fois de la Turquie, mais aussi des Kurdes. Mais elle va également mécontenter les Ukrainiens, puisque vous savez que Zelensky est caractérisé par une politique intransigeante et arrogante. Et évidemment que le ton qu'il emploie ne peut que mal tourner vis-à-vis de la Turquie. Je pense donc que les positions opportunistes de la Turquie ne conduiront qu'à une catastrophe géopolitique pour l'État turc. Tout cela se fait dans un contexte où la Turquie a évidemment besoin de la Russie pour contourner la catastrophe économique dans laquelle est l'économie turque. Tout cela ne peut conduire évidemment qu'à une catastrophe pour Ankara dans tous les dossiers dans lesquels Ankara est impliquée, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Asie centrale avec l'Azerbaïdjan, que ce soit avec la Syrie ou l'Irak.
Tout de même, si ce n'est déjà fait, M. Luc Michel, je m'adresserai encore à vous, mais vous savez, même si la région est soumise à un cessez-le-feu depuis 2 ans, mais la situation reste tendue, justement la Turquie, l'un des dossiers de la Turquie que vous avez cité, bien sûr, c'est de menacer les Kurdes de la Syrie, alors que l'Iran et la Russie, justement, sont extrêmement opposés à ces opérations.
Ben écoutez, je vais expliquer. Le commentaire sur lequel Erdogan fait le grand écart, il n'est pas de moi. Il est de l'hebdomadaire français Le Point, de leurs experts. Mais c'est exact. C'est-à-dire qu'en faisant le grand écart, Erdogan veut à la fois contenter les Ukrainiens et contenter Vladimir Poutine. Il veut à la fois contenter les Américains et les Ukrainiens. Il veut à la fois contenter les Américains et contenter les Syriens et contenter les Iraniens. C'est une position qui, à long terme, est intenable. Ça peut marcher quelque temps dans le cas de ce qu'on appelle des coups de poker géopolitiques, mais ça ne peut pas être des positions qui sont tenables longtemps. À faire des positions de grand écart, évidemment, vous mécontentez toutes les parties. C'est mon analyse de la situation.
Absolument. Aysar Midani. Oui, merci d'être avec nous.
Vous m'entendez maintenant?
Oui, absolument. Oui, absolument. D'accord. Alors, le renforcement des positions turques dans le nord-ouest de la Syrie, Assad voit ça d'un très, très mauvais œil. C'est pour ça qu'il a décidé de passer à l'offensive très sérieuse, justement à cibler avec un missile les positions turques.
Absolument. Alors, effectivement, depuis quelques années, là, Erdogan joue sur la situation au nord de la Syrie, aussi bien à Idlib, Afrin, le nord de la Syrie, dans le côté aussi est, prétendant toujours qu'il s'agit d'épargner à la Turquie les agressions kurdes du PKK prétendument à leurs frontières. En fait, et il déploie sans arrêt des agressions, il déploie des armes, il utilise les terroristes de Tahrir al-Sham, il les arme, il les dirige, etc., depuis quelques années. Et puis, effectivement, la patience stratégique de la Syrie a laissé beaucoup de place, effectivement, à des accords avec la Russie, les accords concernant les zones d'apaisement, les retraits, de manière à éviter à ce qu'il y ait vraiment des confrontations importantes dans les villes qui sont peuplées, et éviter aussi la destruction de l'infrastructure du pays. Or, effectivement, la Turquie a profité de ces... Erdogan a profité de cette situation de patience. Il a multiplié les bases militaires, des bases qu'il appelle points de surveillance militaire, mais qui ne sont rien d'autre que des bases qui permettent de mieux coopérer avec les terroristes, de leur donner des indications importantes pour la destruction de l'infrastructure syrienne, entre la destruction des routes, la destruction des échangeurs, la destruction des ponts aussi et des passages. L'accord qui avait eu lieu en 2019, en fait, concernant, d'ailleurs, sous l'égide aussi de la Russie, concernant le dégagement de l'autoroute M4 qui relie Idlib à Latakia et à Alep, et puis de l'autre côté, du côté est, elle relie aussi Latakia à Derzor réellement, en passant justement par Idlib. Or, cet accord, ça a été, il est jusqu'à présent lettre morte, parce qu'il devait être mis sous le contrôle de l'État syrien, que les Turcs devaient dégager 6 km de part et d'autre de cette autoroute et permettre effectivement la circulation des vivres et des denrées de l'ensemble d'est en ouest en Syrie et de nord en sud, la M5 aussi, qui relie Alep à Damas en passant par Idlib. Aussi, or, il n'en a rien été, et à chaque fois, prétexte derrière prétexte, Erdogan prétendant se battre contre les terroristes de Qassad, mais en fait, ce n'est qu'un prétexte fallacieux, parce qu'on voit que Qassad coopère aussi avec la Turquie, dans le vol et le pillage du pétrole syrien qui transite par la Turquie d'ailleurs à travers la base américaine d'El-Shedadi qui est en Irak mais sur des convois américains mais qui transitent par la Turquie et qui vont être dans la poche de monsieur le fils d'Erdogan qui en fait les vend pour son vent le blé et le pétrole pour son compte et pour alimenter les terroristes en armes et en munitions. Donc là, c'est vraiment un prétexte fallacieux. Or, la position de l'État syrien et de la Russie, c'est que la meilleure manière de protéger effectivement les frontières turques des Kurdes, c'est d'une part qu'ils cessent justement d'alimenter les terroristes de tous les côtés, d'un côté, de l'autre côté, la meilleure solution, c'est le déploiement de l'armée arabe syrienne sur les frontières syriennes avec la Turquie. C'est ça qui permettrait qu'il n'y ait pas d'agression, si agression il y a, de la part de Qassad. Or, les Kurdes que Erdogan prétend combattre hein, sont les alliés inconditionnels des États-Unis. C'est oui, FDS, absolument. Les forces dites démocratiques, dites syriennes, qui ne sont ni démocratiques ni syriennes, d'ailleurs, qui sont dirigées par des par des Kurdes importés de l'extérieur et qui sont complètement inféodés aux Américains, donc importés de Wadi Qandil, et en fait complètement sous les ordres des Américains, et qui sont aussi les alliés de la Russie, de la Turquie, obligatoirement. Oui. Je tiens quand même à signaler que récemment, il y a eu des accords entre Qassad et HTS, là, la Hayat Tahrir al-Sham, qui, pour la création d'une raffinerie aux frontières de la Turquie, du pétrole qui est volé en Syrie et en Irak d'ailleurs, pour être raffiné dans cette raffinerie et qui va servir aux forces terroristes. D'accord. Qui sont soutenues par la Turquie.
Absolument.
Or, en fait, tous ces prétextes sont fallacieux et je suis complètement ravi que effectivement l'armée arabe syrienne commence à attaquer effectivement ces bases turques qui sont déployées, et que maintenant aussi je voudrais dire aussi qu'il y a eu des attaques contre des cellules terroristes du sud, en fait, qui ont à Al-Tanf, qui sont aussi entraînées, dirigées par les Américains dans leur base qui est au sud de la Syrie, la base qui est Al-Tanf, et qui est sur les routes de passage entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, Madame Midani donc nous a expliqué amplement donc la situation en Syrie et la Turquie. Et bien sûr, la Turquie a abusé de la méfiance, plutôt de la patience de Assad ces dernières années, et pour prendre des positions dans le pays. Mais cette fois, Assad en a assez de la situation. Et jusqu'où, voilà ma question, jusqu'où ces offensives vont poursuivre?
Moi, je pense évidemment que le départ des forces étrangères de Syrie, elle commence par les forces turques, puisque on s'attaque toujours à l'impérialisme dans son ventre mou, et que la position turque est évidemment le ventre mou de l'impérialisme en Syrie. À la suite du départ des Turcs, suivront les Américains et les Français. Mais la duplicité d'Erdogan, elle éclate dans tous les dossiers. Tout d'abord, il y a dans le dossier kurde, puisqu'il combat le PKK, mais il a d'excellents rapports avec la région autonome turque d'Irak et avec les Barzani. Elle éclate en Libye, puisque il prétend aider les régimes souverainistes arabes, mais en même temps, il a importé les djihadistes, les tafkiristes syriens dans tout le Sahel. Elle éclate évidemment en Azerbaïdjan, puisqu'il prétend avoir de bons rapports avec la Turquie, mais qu'il attaque l'Arménie et le Haut-Karabakh. Elle éclate en Turquie, puisqu'il fait le grand écart entre Zelensky et Poutine. Et elle éclate évidemment dans tous les domaines. C'est une position tout à fait qui s'incarne dans ce qu'on appelle en français la duplicité, le fantasme hérité de l'Empire turc. Erdogan est évidemment un personnage sur lequel on ne peut fondre aucune politique de confiance. Et actuellement, évidemment, Poutine regarde ça de très loin. Il fait semblant de croire à l'amitié de la Turquie. Mais il faut quand même rappeler qu'au moment où la Turquie se dit l'ami de Poutine, c'est quand même la deuxième armée de l'OTAN. Et c'est sur le territoire de Turquie qu'est la principale base logistique qui permet aux Américains de se projeter en Syrie, en Irak ou encore en Afghanistan, à Irtikli. C'est donc une position, évidemment, qui n'est pas tenable et sur laquelle on ne peut accorder aucune confiance à la Turquie.
Monsieur Luc Michel, la Turquie ne va tout de même pas renoncer à ses positions si névralgiques, comme vous dites?
Écoutez, ces positions, ce sont des positions opportunistes qui sont basées sur des grands écarts et sur des coups de poker géopolitiques. La Turquie en a retiré évidemment une déposition, ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire la reconstitution d'une sphère d'influence qui rappelle l'Empire ottoman. C'est le cas en Asie centrale, c'est le cas en mer Noire, c'est le cas en Libye, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Syrie et c'est le cas en Irak. Mais évidemment, à vouloir développer des positions opportunistes dans tous les domaines, on finira par se fâcher avec tout le monde. Même vis-à-vis des alliés américains, évidemment, il y a une politique de chantage qui ne pourra pas durer. C'est la même chose vis-à-vis de la Russie. Je crois que tout cela finira par une catastrophe à un moment donné, d'autant plus que la Turquie actuellement est dans de grands troubles géopolitiques et économiques.
Oui, absolument. Aïssa Armidani, M. Luc Michel a parlé de la Turquie qui essaye de contenter tout le monde, une politique basée sur le bluff, bien sûr, qui mènera à rien. Que pensez-vous pour terminer?
En fait, à mon avis, ce n'est pas essayer de contenter tout le monde, mais c'est tirer profit de toutes les situations en faisant chanter tout le monde. Et c'est vraiment... Il tire un grand profit de la position stratégique, effectivement, géographique de la Turquie, d'une part, que le fait que la Russie a besoin de la Turquie pour pouvoir passer à la fois son gaz, son pétrole et même les céréales à travers la mer Noire, à travers, il y a quand même une position objective importante de la Turquie, objective géographique, j'entends. Donc il y a cet aspect, il y a aussi un grand échange en fait commercial et autres entre la Russie et la Turquie, d'une part. D'autre part aussi, c'est la porte de l'Occident, je dirais, vers l'Orient, parce que géographiquement, l'Europe a besoin aussi, l'Europe et les États-Unis ont besoin de la Turquie pour l'accès à cette région, accès même à la Méditerranée. Donc, c'est aussi, il tire profit de tous les, il fait, comme on dit en français, il fait feu de tout bois. Il intervient effectivement, il est ami avec Israël et il prétend soutenir la résistance palestinienne. Il est un peu partout avec l'ami et l'ennemi de chacun. Mais je pense que effectivement, là, cette position, elle est supportable. Par une situation qui est, parce que nous sommes dans une situation mondialement, dans une situation internationale qui est une situation charnière où il y a l'écroulement du monde occidental, il y a le démarrage d'un monde multipolaire. Il pourra jouer encore un tout petit peu de cette position. Mais une fois les choses sont tranchées, je crois qu'il ne pourra plus et son jeu sera complètement découvert. Les pays avec lesquels il est ami, ils lui demanderont vraiment d'avoir une position tranchée, choisir son camp et prendre les mesures qu'il faut. Surtout, par exemple, en Syrie, il est très important quand même qu'il y ait objectivement... C'est dans l'intérêt du peuple turc, d'ailleurs, que les relations soient bonnes avec le peuple syrien. Mais lui, il a des velléités dominatrices et des velléités impérialistes. Son peuple ne lui pardonnera pas aussi cette crise et d'avoir introduit énormément de terroristes en Turquie, d'avoir provoqué des crises économiques, d'avoir provoqué tout un tas de choses. Et surtout un grand problème de sécurité à l'intérieur du pays. Donc, en fait, il sera aussi sanctionné par son peuple, à mon avis.
Absolument.
Et par tous les peuples voisins qui le pratiquent. Parce que nous, Syriens, on n'a rien contre le peuple turc, mais on est très contents aussi de pouvoir échanger avec lui. Mais d'un autre côté, avec un dirigeant comme ça... qui gâche tout et qui casse tout, c'est impensable.
Aïssa, voilà. Oui. Bon, notre temps est terminé. Aïssa Armidani, expert merci. Franco-syrienne depuis Damas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à
merci
M.
À
Luc
vous.
Michel.
Merci.
Oui, un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien qui était avec nous depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Okay. Au revoir à tous.
Merci à vous.
Au revoir.
district économique.
Bonjour et merci d'avoir rejoint notre émission Afrique économie de cette semaine. Reste avec nous pour en savoir plus. En Côte d'Ivoire, nouvelle découverte de pétrole et de gaz associée sur le bloc CI-802. En 2021, Eni annonçait avoir mis la main sur une réserve significative d'or noir au pays des éléphants, une première découverte pétrolière dont les retombées économiques annoncées entretiennent les espoirs de nombreux Ivoiriens. Donc, en Côte d'Ivoire, cette même société a annoncé jeudi 28 juillet qu'elle a découvert une nouvelle réserve de brut et de gaz associé dans le puits d'exploration Baleine Est, logé sur le bloc CI-802, un périmètre d'exploration situé à 5 km à l'est de la découverte Baleine 1, réalisée l'année dernière. Selon les données de la fiche technique, les activités de forage effectuées sur le puits jusqu'à une profondeur totale d'environ 3165 mètres ont permis d'entrecouper une réserve d'huile d'excellente qualité. Le test de débit réalisé sur le puits indiquait une production de 12 000 barils par jour de pétrole et 14 millions de pieds cubes et standards par jour de gaz associés. Un taux qui favorise une optimisation de la stratégie de développement du périmètre en valorisant de 25% le potentiel du champ Baleine, désormais estimé à environ 2,5 milliards de barils de pétrole et 3,3 trillions de pieds de cubes de gaz associés. Alors que le richissime RDC s'affronte en ce moment à une guerre imposée par les parties occidentales par Rwanda interposé, des ONG qui agitent toujours sur l'ordre des Occidentaux adressent une pétition au président Tshisekedi pour demander l'arrêt du projet d'exploration pétrolière. Kinshasa a augmenté il y a quelques jours le nombre de blocs pétroliers et gaziers couverts par le cycle d'octroi de droits d'exploration annoncé en RDC. Un projet dénoncé par plusieurs organisations de protection de l'environnement qui appelle à sa suspension. Des organisations qui, rappelons-le, sont en général en rapport direct avec les Occidentaux et leurs intérêts. En République démocratique du Congo donc, un groupe de plusieurs ONG de protection de l'environnement a adressé mardi 26 juillet une pétition au président Tshisekedi, une requête par laquelle elles appellent le dirigeant à exercer son autorité pour ordonner l'arrêt immédiat du projet d'exploration pétrolière et gazière annoncé depuis plusieurs mois par le gouvernement. L'initiative portée par des ONG nationales et internationales, entre guillemets, dont Extinction Rebellion et Greenpeace, entre autres, a recueilli les signatures de plus de 100 000 personnes et on ne sait pas vraiment d'où viennent ces personnes.
Au Gabon, les zones économiques spéciales ont exporté pour 108 milliards de francs CFA de marchandises au premier semestre 2022. Au cours des six premiers mois de l'année 2022, Gabon Special Economic Zone a exporté 17 000 conteneurs contre 12 730 sur la même période en 2021. Soit une augmentation de 34%, indique le rapport semestriel de l'entreprise. Les volumes d'exportation au cours de la période sous revue sont également en hausse de 21% selon l'entreprise. Au total, les exportations ont généré 108 milliards de francs CFA entre janvier et juin 2022, soit une hausse de 55% en comparaison à la même période en 2021. Les produits exportés sont notamment du bois transformé à l'instar des feuilles de placage, principalement dans les zones économiques spéciales de Coq et d'Icolo. Créée en juin 2021, la zone d'investissement spécial d'Icolo a en effet exporté son premier conteneur de feuilles de placage le 23 mars 2022. Fin juin dernier, apprend-on sur le Nouveau Gabon, elle hébergeait déjà 4 usines fonctionnelles, dont 3 usines de bois scié. Au Ghana, le Parlement approuve un prêt de 140 millions d'euros pour la première phase de l'échangeur de Souam. Le Parlement ghanéen a approuvé un prêt de 140 millions d'euros pour la réalisation de la première phase du projet de l'échangeur de Souam, une municipalité de la région d'Ashanti. Le projet qui vise à fluidifier le trafic sur le rond-point principal de la région et les différentes routes qu'il dessert devrait se réaliser en 2 volets, selon le ministre ghanéen des routes et des autoroutes, Kevesi Amwaka-Atta. La première phase concerne la construction d'un échangeur à 4 niveaux avec des travaux annexes prévus, tandis que la deuxième phase consistera en la construction d'un échangeur complémentaire ainsi que des travaux routiers. Les travaux dans le cadre de la première phase prendront 36 mois. Actuellement, l'intersection de Souam est le point de convergence de 5 routes principales, ce qui rend le trafic pénible sur cet axe avec son lot de pollution au quotidien. Selon le rapport du projet soumis au Parlement, la réalisation de cette infrastructure permettra de réduire les embouteillages, le risque d'accident, le temps de trajet, les coûts environnementaux et les coûts de transport sur ce rond-point. Le Bénin souhaite devenir un hub numérique panafricain. Le Bénin est engagé dans une transformation profonde de son économie et parmi les secteurs les plus soutenus par l'État, il y a celui des nouvelles technologies et du numérique. Pour faire émerger le secteur, l'État a investi massivement ces dernières années. Nous avons consenti au cours de ces dernières années près de 80 millions d'euros d'investissement dans les infrastructures numériques. Nous avons des câbles sous-marins qui permettent une connectivité de qualité à l'international. Nous avons un backbone national en fibre optique à travers tout le pays que nous densifions, nous renforcerons, a déclaré Aurélie Adam Soulet, la ministre béninoise de l'économie numérique et de la digitalisation. En quelques années, le Bénin a développé un secteur de la tech florissant. Plusieurs centres d'appels internationaux s'y sont implantés. Les startups béninoises commencent à conquérir des marchés dans la sous-région et le pays rêve désormais d'attirer davantage un géant de la tech mondiale à l'instar du Kenya et de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire signent 6 nouveaux accords. Ils viennent s'ajouter à 9 précédents accords signés en décembre 2021 à Abidjan. 6 nouveaux accords de coopération bilatérale ont été signés vendredi à Pretoria entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président ivoirien Alassane Ouattara en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet 2022. Les 6 accords portent notamment sur le développement social et l'inclusion sociale, la coopération économique et les transports, a rapporté la présidence ivoirienne dans un communiqué. Ces accords viennent s'ajouter à 9 précédents accords signés en décembre 2021 à Abidjan lors de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les 10 accords portaient sur la coopération dans le secteur de la défense, de l'agriculture, des services aériens, de la promotion de la jeunesse, des technologies de l'information et des communications, ainsi que dans les domaines des énergies, des mines, de la géologie, des hydrocarbures et de l'emploi. Avant la signature des accords ce vendredi, le président Alassane Ouattara s'est entretenu au palais de la présidence de la République à Pretoria avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ainsi que des questions régionales et internationales. Les deux chefs d'État se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun.